Et nous entamons un nouveau chapitre qui est l'histoire intérieure des églises protestantes. Donc, pas simplement en France, nous avons vu surtout, jusque maintenant quand nous avons parlé du protestantisme du XVIIe siècle, nous avons vu l'histoire des réformés français essentiellement, nous allons voir maintenant sur un plan beaucoup plus général, sur un plan européen. Le premier point qu'il nous faut ici signaler, c'est ce qu'on appelle la controverse arminienne. Au début du siècle, en Hollande, un certain Arminius s'est mis à mettre en doute ce qui était, surtout au XVIIe siècle, un des dogmes essentiels de la Réforme, c'est-à-dire la doctrine de la prédestination, à savoir que Dieu a éternellement prédestiné dans une souveraineté totale ceux qui étaient destinés à être sauvés et ceux qui étaient destinés à être perdus, sans que ces derniers ne puissent rien changer à leur sort. Et que, à partir du moment, que donc Christ était mort uniquement pour les élus et non pas pour le monde entier, ce qui est évidemment anti-biblique. Et puis, troisième point, comme corollaire, que quelqu'un qui avait, auquel Dieu avait donné la grâce de la nouvelle naissance et par conséquent, qui était élu, n'est-ce pas ? Avait donc la conviction qu'il était élu, ne pouvait plus revenir en arrière, ne pouvait plus se renier, ne pouvait pas apostasier, et par conséquent, que quelqu'un qui était né de nouveau était, c'est ce qu'on appelle la sécurité du salut. Il avait l'assurance de la sécurité du salut, quoi qu'il fasse. Remarquons, entre parenthèses, que un certain nombre de gens professent encore ces doctrines aujourd'hui, aussi aberrantes qu'elles puissent paraître. Bon, Calvin avait professé ces choses, mais sans en faire un cheval de bataille, si j'ose dire, c'était plus pour lui quelque chose de théorique que quelque chose qui était pratique. Dans la pratique, il appelait les gens à une décision, il appelait les gens à une démarche personnelle libre, n'est-ce pas ? Mais, si vous voulez, c'était dans une théorie, dans une spéculation, disons, quelque peu métaphysique, que Calvin, donc, avait élaboré cette théorie. Il s'est passé avec Calvin ce qui se passe souvent dans pareil cas, c'est-à-dire que les disciples vont plus loin que les maîtres, et donc les disciples en avaient fait quelque chose de pratique. Et la doctrine de la prédestination et de la sécurité du salut étaient donc des dogmes fondamentaux des églises réformées dans le monde entier, et en particulier en Hollande, jusqu'au moment où, effectivement, Arminius, qui était donc un pasteur hollandais, a mis en doute cette doctrine telle qu'elle était, en tout cas, élaborée. Et alors, il a adressé au synode ce que l'on appelait une remontrance. C'est pas du tout dire qu'il les reprenait, mais une remontrance en vieux français à cette période-là, c'était en quelque sorte une interpellation. Hein. Un questionnement beaucoup plus que, comme on dirait aujourd'hui, une remontrance. Hein, c'est-à-dire une remise à l'heure, quoi. Hein. Et ceux qui ont suivi Arminius dans ce synode-là ont donc été appelés les remontrants. Le mouvement des remontrants vient, n'est-ce pas, de cette remontrance que Arminius avait adressée au synode. Alors, l'affaire a fait grand bruit en Hollande. On en s'est mis à en discuter fermement. Et quelques années plus tard, en 1666, un synode, le synode de Dordrecht, s'est penché sur la question posée par Arminius, à savoir que l'homme était en quelque sorte libre en face de l'appel de Dieu, que l'appel de Dieu en Jésus-Christ s'adressait indistinctement à tous les hommes, et que l'homme était libre de répondre ou de ne pas répondre à cet appel de Dieu, et qu'une fois qu'il avait répondu à l'appel de Dieu, eh bien, il était toujours tout aussi libre de renier sa parole, de revenir en arrière, et par conséquent que la sécurité du salut absolu n'était pas quelque chose de garanti. Ce ne l'était, bien entendu, que dans la mesure où le croyant persévérait jusqu'à la fin. Il y a eu donc une intervention au synode d'Ostrich, et Arminius a été condamné par le synode pour erreur doctrinale flagrante, et notamment les représentants des cinq cantons du nord de Dordrecht, n'est-ce pas, ont rappelé la dépravation totale de l'homme, dépravation qui est telle, à les en croire, que l'homme a même perdu sa liberté. Il n'est même plus libre, n'est-ce pas, de répondre à l'appel de Dieu. Et pour qu'un homme réponde favorablement à l'appel de Dieu, il faut que la grâce de Dieu lui soit accordée pour vaincre cette nature mauvaise qui, si elle n'était pas, submergée par la grâce, l'amènerait à dire toujours et systématiquement non. Alors on voit que là, c'est vraiment poussé loin. Hein, c'est poussé loin, la doctrine de... Donc il y a une prédestination pour le synode, n'est-ce pas ? Une prédestination inconditionnelle des êtres. Ça veut dire que l'homme n'est pas libre de ses choix dans ces domaines. Dieu détermine souverainement qui il va sauver, et quand il veut sauver quelqu'un, eh bien il lui donne la grâce de répondre à l'appel de Dieu et donc de se convertir. L'expiation, rappelez les cinq cantons, est offerte aux élus seulement, et la grâce de Dieu est irrésistible. Quand quelqu'un est l'objet de la grâce de Dieu, il ne peut pas dire non. De la même manière que si quelqu'un ne reçoit pas la grâce de Dieu, il ne peut pas dire oui. De la même manière, si quelqu'un reçoit la grâce de Dieu, il ne peut pas dire non. Vous voyez comment où on en est, quoi. Hein. Et donc, il y a la persévérance finale automatique qui en découle. Alors, cette condamnation d'Arminius et des remontrants provoque une persécution contre ces derniers, contre les remontrants. Il y aura quelques années difficiles. Bien entendu, il faut nuancer. Si persécution n'est pas persécution, il n'y a pas des bûchers, il n'y a pas de choses comme ça. Mais enfin, il y a des années difficiles pour les remontrants. Et puis finalement, les Provinces Unies sont quand même un pays tolérant. Et au bout de quelques années de combat, les remontrants obtiennent la tolérance. Mais il se passe, hélas, ce qui se passe souvent dans pareilles situations, lorsque des gens ont redécouvert une vérité, eh bien, les remontrants vont aller beaucoup trop loin et vont aussi donc dérailler doctrinalement en insistant trop sur la liberté de l'homme et finalement en arrivant petit à petit, en revenant à une conception du salut par les œuvres, c'est-à-dire en somme toute un semi-pélagianisme. Par exemple, un des principaux personnages en pointe dans cette hérésie remontrante sera Hugo Grotius, qui lui aussi est un Hollandais, c'est date 1583-1645, qui prend position en demeurant très fermement contre les musulmans. Les musulmans étaient déjà un problème pour l'Europe à cette période-là. Et pour lui, n'est-ce pas, la propitiation par le sang n'existe pas. Le sang de Jésus ne lave pas l'homme de son péché, et la mort de Jésus n'est qu'un témoignage que Dieu ne peut pas laisser le péché impuni, mais n'est pas une réparation pour le péché. La mort de Jésus n'a pas de valeur expiatoire, dit Grotius, et finalement, la mort de Jésus n'est qu'un exemple, qu'un témoignage de la justice et la sainteté de Dieu, en sorte que l'homme est appelé par sa propre vie de sainteté, eh bien, obtenir son salut en quelque sorte. Là, on tombe évidemment dans une hérésie qui est encore plus grave que la précédente, si l'on peut dire, puisque là, on revient vraiment à fond au salut par les œuvres. Alors, de la Hollande, bien sûr, la controverse passe dans d'autres pays, et notamment en France. En France, pour une bonne et simple raison, c'est que il y a beaucoup de huguenots français qui sont réfugiés dans les Provinces Unies, en Hollande, et qui par conséquent vont être mêlés, même à leur corps défendant, à cette controverse arminienne. Et dans les années qui suivent le synode d'Ordrecht, le synode d'Alès, qui se rassemble dans la foulée, adopte les canons de Dordrecht, c'est-à-dire la doctrine de la prédestination inconditionnelle. C'est tout à fait intéressant de noter que, au même moment, il y a déjà quelques pasteurs réformés français qui commencent à avoir, si vous voulez, un certain libéralisme qui va s'introduire au milieu d'eux. C'est ainsi que il va y avoir des gens qui vont mettre en doute, à cette période-là, déjà commencer à mettre en doute l'inspiration totale de l'écriture. Alors, l'évolution de l'Église réformée française suit de près l'évolution de l'Église réformée hollandaise dans le domaine de la controverse arminienne. Quant aux églises luthériennes, le XVIIe siècle est un siècle extrêmement difficile en ce qui les concerne. Elles restent figées dans une orthodoxie morte, n'est-ce pas ? Et autant au siècle précédent, les églises luthériennes sous Luther donc étaient vivantes, autant au XVIIe siècle, après la mort de Luther, eh bien c'est la mort aussi, c'est la mort de l'Église luthérienne qui n'est plus qu'une Église nationale comme les autres. Maintenant, de Hollande et de France, la controverse arminienne qui ne touche pas les églises luthériennes. Elle ne les touche pas en Allemagne parce que, encore une fois, dans cette orthodoxie morte qui est la leur, les églises luthériennes ne sont pas du tout perméables à ce genre de controverse. Pour eux, il y a une doctrine qui a été fixée par Luther une fois pour toutes, qui est pratiquement l'égale de la Bible, et on ne touchera pas à une virgule de ce que Luther a élaboré. Par conséquent, Luther avait aussi une vision de la prédestination qui se rapprochait de celle de Calvin, sans être pour autant aussi outrancière, et finalement, on reste dans cette vision-là, dans les églises luthériennes. Par contre, il va en être différemment dans le monde anglo-saxon, où précisément, la doctrine arminienne va provoquer toute une série de réactions en chaîne, et un essor, nouvel essor de l'Église d'Angleterre, de manière générale, et plus particulièrement, aussi, hélas, son corollaire, des nouvelles divisions. Ça, c'est les choses. Bon. Alors, la doctrine arminienne provoque d'abord aussi un raidissement en Angleterre. Et va apparaître au XVIIe siècle un mouvement qu'on appelle le mouvement puritain. Le mouvement puritain se recrute essentiellement dans les églises officielles, y compris, par exemple, en Écosse, dans l'Église presbytérienne d'Écosse. Et les puritains sont des gens qui sont des calvinistes de la stricte observance, donc qui sont anti-arméniens, vraiment anti-arméniens. Mais qui sont aussi, n'est-ce pas, partisans d'une grande austérité dans la vie chrétienne. D'une grande sainteté, il y a une recherche de sainteté très profonde dans le milieu puritain qui les amène à une séparation radicale d'avec le monde. Le puritanisme, comme son nom l'indique, est somme toute un radicalisme par rapport au monde et par rapport aux doctrines bibliques. C'est pareil, il s'agit de se tenir strictement aux doctrines bibliques et les puritains trouvent, par exemple, qu'au niveau de l'Église d'Angleterre, cette dernière n'est pas allée suffisamment loin dans sa rupture avec le catholicisme. Et ils militent justement pour une purification de l'Église, d'où le nom de puritain, n'est-ce pas ? Une purification de l'Église de tout ce qui peut rester encore de non-biblique. C'est une démarche tout à fait positive. Et c'est pourquoi les puritains ne sont pas du tout ce que l'on en a fait, c'est-à-dire des hypocrites, des tartuffes religieux. Finalement, aujourd'hui, dans notre société française en particulier, le mot puritain est très très péjoratif, très très négatif, alors que le mouvement puritain a été un authentique mouvement de réveil à l'intérieur de l'Église, n'est-ce pas, et un authentique mouvement du Saint-Esprit. Maintenant, les puritains aussi, dans le radicalisme qui était le leur, eh bien, voulaient émanciper l'Église de l'État. Ils n'étaient pas plus d'accord avec le système constantinien. Et là, pour la première fois, nous voyons apparaître un phénomène tout à fait intéressant, justement, parce que jusqu'ici, même au XVIe siècle, les réformateurs n'avaient jamais remis en question la séparation de l'Église et de l'État, si ce n'est les anabaptistes. Les anabaptistes avaient été les seuls qui avaient remis ce dogme en cause. Bon, on sait quel sort avait été réservé aux anabaptistes, mais au siècle suivant, les puritains vont reprendre aussi ce qui finalement, bibliquement, est une évidence. L'Église n'a pas à être inféodée à l'État, n'a pas à être au service de l'État. les puritains militent au sein de l'Église d'Angleterre pour la constitution, pour la fin du système épiscopal et pour son remplacement par un système synodal de type donc calviniste, suppression des fêtes et des cérémonies païennes, Noël et choses semblables. Voyez-vous, il y avait un radicalisme très profond en ce qui les concernait. Et puis en même temps, ils étaient au contraire pour une stricte observance du dimanche. Si vous voulez, qui n'était pas, sans rappeler d'ailleurs, le respect juif du Shabbat. En quelque sorte, il transposait sur le dimanche un petit peu ce que les Juifs faisaient pour le Shabbat. Et le puritanisme dans ce domaine-là est resté très fort jusqu'au début de ce siècle, n'est-ce pas ? Et le dimanche anglais, hein, jusqu'après la guerre, était vraiment quelque chose de tout à fait spécial, encore une fois, qui n'était pas sans rappeler le Shabbat. Par exemple, on allait juste dans certains milieux évangéliques, il y a encore de cela une trentaine d'années, quand moi-même j'étais encore étudiant en Angleterre, n'est-ce pas, on allait jusqu'à interdire aux jeunes ou aux enfants, n'est-ce pas, de jouer avant le coucher du soleil ou des choses comme ça le dimanche, quoi. Hein. On devait vraiment se reposer à fond, quoi. C'était excessif, c'était très excessif. Mais il y avait, n'est-ce pas, ce respect du Shabbat qui était très fort, même dans les autres milieux qui n'étaient pas aussi excessifs en Angleterre. Et à l'école biblique, par exemple, on nous mettait en garde d'une manière très forte contre tout ce qui pouvait violer d'une manière ou d'une autre la sainteté du dimanche. Ça, c'était très fort en Angleterre, c'était l'influence puritaine qui est née au XVIIe siècle et qui commence maintenant seulement à s'estomper. Maintenant, le mouvement puritain, bien évidemment, a provoqué des réactions négatives, ça on peut l'imaginer facilement, et finalement, il y a eu une scission. Dans la mesure où les puritains, eux, ne souhaitaient pas rompre. Ils souhaitaient être le ferment dans la pâte, n'est-ce pas ? Mais un certain nombre de puritains, s'impatientant, trouvant que l'évolution de l'Église d'Angleterre ne se faisait pas suffisamment vite ni exactement selon leurs vœux, ont décidé de rompre avec l'Église d'Angleterre. Et c'est ainsi qu'est né le mouvement des congrégationalistes, les églises congrégationalistes, ou les indépendants, si vous voulez, c'est presque ces deux mots qui sont pratiquement synonymes, et qui sont nés, donc, à ce moment-là. Il y a, en fin de compte, déjà à la fin du siècle, n'est-ce pas, la première église congrégationaliste a été fondée en 1580 à Norwich, et puis en 1602, à Londres, n'est-ce pas, la première église congrégationaliste a été créée. Qu'est-ce que c'était que le mouvement congrégationaliste ? C'était, si vous voulez, les idées puritaines qui étaient donc réalisées concrètement. Et notamment, quant à l'ecclésiologie, quant à la structure de l'église, les églises congrégationalistes avaient rompu complètement avec l'État, donc avec l'église d'Angleterre, et chaque congrégation, chaque église, donc appelée congrégation en anglais, était autonome, était indépendante, ça veut dire qu'elle s'administrait elle-même, pardon, elle avait son propre conseil, elle avait ses anciens, elle élisait son pasteur, et à la limite, n'est-ce pas, n'avait pas besoin, en tout cas, de contact, de relation avec les autres églises. Et si relation il y avait avec les autres églises, elle ne pouvait être que des relations de type fraternel. Le mouvement des congrégationalistes ou des indépendants va aussi évoluer. Il va évoluer dans un sens théologique, sous l'influence de notamment des Mennonites hollandais. Il y a pendant toute cette période des contacts très étroits entre l'Angleterre et la Hollande. Ce sont en Europe les deux grandes puissances protestantes, mis à part l'Allemagne. Mais l'Allemagne, nous l'avons vu, est figée sur le plan spirituel, tant et si bien que à cette période-là, les deux ailes marchandes du protestantisme sont l'Angleterre et la Hollande. D'autre part, n'est-ce pas, ces pays sont liés aussi par les vicissitudes politiques qu'ils traversent, qui les amène à mener un combat commun, notamment contre la France de Louis XIV, en sorte que cela aussi provoque des rapprochements. Et c'est ainsi qu'en 1632, une église congrégationaliste décide d'abolir le baptême des enfants et de ne conférer le baptême qu'aux adultes qui en font officiellement la demande. En cela, ils reprennent la pratique des églises mennonites de Hollande, mais ils l'introduisent au sein donc des églises anglaises. Et 1632, en Angleterre, est la date officielle de la naissance des églises baptistes. Les églises baptistes sont au départ des églises congrégationalistes qui vont donc adopter le baptême des adultes. La première chose que font les baptistes anglais, c'est justement d'entrer en contact avec les mennonites de Hollande, et c'est ainsi que la première église baptiste donc envoie en 1640 en Hollande un de ses pasteurs, le Richard Blouret, qui lui-même va baptiser le pasteur Blackock et 54 membres, n'est-ce pas, de la première église baptiste. Il y aura un premier service de baptême de 54 personnes, dont le pasteur lui-même. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait important, parce que ce mouvement baptiste va être appelé à se développer considérablement dans les années qui suivent, non seulement en Angleterre, en Hollande, mais également, comme nous aurons l'occasion de voir, surtout aux États-Unis, qui commencent à être colonisés à cette période-là. Nous allons voir dans un instant dans quelles conditions. Mais le mouvement congrégationaliste qui naît en Angleterre du réveil puritain va avoir une autre conséquence. Alors, une chose aussi à dire, avant de laisser les baptistes, c'est que les premiers baptistes sont aussi calvinistes. Aujourd'hui, la plupart des baptistes et des évangéliques sont arméniens, mais à l'époque de la création du mouvement baptiste, les baptistes étaient des calvinistes de la stricte observance. La théologie en dehors du baptême était une théologie calviniste. Alors, le mouvement baptiste va secréter lui-même une nouvelle dissidence, si j'ose dire, avec George Fox. George Fox, 1624-1691. George Fox, en 1647, dans une église congrégationaliste de type baptiste, va faire une expérience spirituelle profonde. Il reçoit une révélation de Dieu qui l'amène à se convertir. Et cette expérience l'a tellement marqué, l'a tellement bouleversé, que George Fox va considérer que la chose la plus importante dans la vie chrétienne, c'est l'expérience. George Fox, en outre, qui est né anglican dans la ville de Drayton, dans un milieu puritain, très influencé par le baptisme, c'est un cordonnier, n'est-ce pas ? Un simple cordonnier. Il a 11 ans quand il se convertit. Et à 19 ans, il est invité par des chrétiens à participer à une beuverie. On va me dire, c'est un petit peu curieux que des chrétiens puissent inviter quelqu'un à participer à une beuverie, mais hélas, on en a des exemples modernes. Voilà. Bon, alors George Fox, qui avait fait une expérience profonde avec le Seigneur, est profondément blessé par cette invitation qu'il décline, bien évidemment, mais qui l'amène à se poser une question, dire, mais alors, si c'est ça les chrétiens, où va-t-on ? C'est sa démarche. D'autre part, George Fox se rend compte qu'il y a des doctrines divergentes dans les églises. Bon, il y a l'église anglicane, il y a l'église presbytérienne, il y a les églises congrégationalistes, il y a les églises baptistes, etc. Bon, il ne sait plus trop comment se situer dans tout cet ensemble. Alors, il recherche le conseil de pasteur, et puis finalement, il est déçu par ce qu'on lui dit. Et en 1646, alors qu'il a 22 ans, il décide de ne compter que sur Dieu. Plus s'attendre au conseil des hommes, mais s'attendre au conseil de Dieu. Et notamment, comme il a fait une expérience avec le Seigneur à 11 ans, au moment de sa conversion, il se dit que le Dieu qui s'est révélé à lui quand il avait 11 ans peut aussi le conduire maintenant par son esprit, lui donner son conseil, notamment par une lumière intérieure. Et petit à petit, donc, George Fox est amené à rechercher de plus en plus ce qu'il appelle cette lumière intérieure, c'est-à-dire une communication directe avec Dieu. Et cette recherche forcenée et excessive, n'est-ce pas, de l'expérience l'amène petit à petit à délaisser la Bible. Et l'expérience intérieure de Dieu qu'il pense faire, n'est-ce pas, par ses rencontres avec Dieu, réelles ou supposées, l'amène petit à petit non seulement à délaisser la Bible, mais aussi à considérer que la doctrine n'a pas d'importance. Vu qu'il se trouve confronté à tant et tant de doctrines diverses, eh bien, il considère qu'il faut relativiser la doctrine. Et à partir de ce moment-là, pendant 40 ans, George Fox va prêcher ce qu'il pense avoir découvert. Il le fait avec une grande conviction, c'est un prédicateur de talent. Et l'action du Saint-Esprit se fait sentir pendant qu'il prêche, tellement que ses auditoires, saisis par le sentiment de la présence de Dieu, de la sainteté de Dieu, se mettent à trembler. Même ses contradicteurs, il en a de nombreux. Par exemple, il va prêcher pendant 40 ans en Angleterre, bien sûr, en Écosse, en Hollande, et puis ensuite il ira même jusqu'en Amérique. Alors il a des méthodes, évidemment, d'évangélisation un peu discutables. Hein, par exemple, il entrera facilement dans une église, quelle qu'elle soit, un dimanche matin, il interrompt le prédicateur, il le pousse hors de la chaire, il se met à prêcher à sa place. Bon, faut comprendre que le procédé n'est peut-être pas tellement apprécié par les pasteurs en question et qu'il a donc des contre... Il sera emprisonné d'ailleurs plusieurs fois pour avoir profané un service religieux en cours, n'est-ce pas, de cette manière-là. Bon, alors, on cite le cas où un jour, justement, il entre comme ça dans une église, il met le pasteur de côté, puis il commence à prêcher, et le pasteur, bien entendu, proteste. Et puis, à ce moment-là, le pasteur est saisi d'un tremblement terrible, n'est-ce pas ? L'action du Saint-Esprit se fait sentir. Et c'est pourquoi on va appeler les disciples de George Fox les Quakers, c'est-à-dire les trembleurs, littéralement. Hein, les trembleurs. Bon, alors, George Fox est emprisonné pour blasphème public. Il connaîtra d'autres emprisonnements nombreux pour cette même raison. Bon, George Fox aussi, dans sa doctrine, refuse le service militaire et le serment. D'ailleurs, en cela, agissant un petit peu comme le faisaient les anabaptistes, et il est totalement allergique à toute forme d'organisation, surtout d'organisation religieuse. Il s'oppose à toute forme d'organisation. Pour lui, l'Église doit être un lieu absolument informel. Il refuse toute référence au ministère ordonné. Il refuse tout sacrement. Et donc, il crée un mouvement qui est tout à fait informel, qui ne se rassemble que pour des moments de silence, chacun cherchant au-dedans de lui-même la lumière intérieure, comme il le dit, c'est-à-dire ce qu'il pense être la révélation de Dieu. Bon, George Fox épousera une certaine Margaret Fulle, qui était la veuve d'un juge, et il aura parmi les convertis nombreux de son ministère un certain William Penn, lequel William Penn sera le fondateur de la Pennsylvanie, donc aux États-Unis. Et les Quakers, persécutés justement pour les différentes raisons que nous avons évoquées, certains d'entre eux seront amenés à se réfugier aux États-Unis et donc à créer ainsi une société nouvelle. Or, c'est précisément ce que veut faire George Fox. George Fox n'entend pas créer une église, il est contre toute église. Pour lui, toutes les églises sont loin de Dieu, dans la mesure où, justement, elles ne s'accordent pas entre elles. Par conséquent, il ne s'agit pas de fonder une église, mais une société. Une société de gens qui ont un contact personnel avec le Seigneur, une société d'individus. Alors voyez-vous, là, nous sommes à fond dans une déviation évangélique qui, hélas, va faire des adeptes, non seulement au sein du mouvement Quaker, mais aussi qui va marquer, si vous voulez, profondément les églises évangéliques, même celles qui ne vont pas aussi loin que George Fox dans ce domaine-là, mais finalement la destruction de la notion d'église. L'Église est quelque chose que les Quakers rejettent, n'est-ce pas ? Comme, finalement, dans la mesure où ils rejettent la Bible. Pour eux, la Bible n'étant pas la norme, n'étant pas quelque chose qui doit être respecté, alors ils se permettent de prendre du champ par rapport à la Bible. Alors, George Fox crée essentiellement une société qu'il appelle la Société des Amis. Et les Quakers ne s'appellent pas entre eux Quakers. Quakers, c'est un mot qui leur a été donné par leurs adversaires, ce qui est souvent le cas, comme le mot huguenot ou comme le mot chrétien au début, n'est-ce pas ? Ensuite, c'est récupéré, n'est-ce pas ? En général, on assume après, n'est-ce pas, cela avec fierté. Mais au départ, c'était pas cela. Et au départ, le nom qu'il avait donné à ses disciples, c'était tout simplement la Société des Amis. Bon, les Amis, les Quakers, si vous préférez, seront persécutés. Et notamment, 245 d'entre eux vont mourir en prison pendant toutes ces années-là. Alors, ils se nomment amis, ou bien alors parfois enfants de Dieu, ou encore enfants de lumière, ou enfin encore aussi enfants de vérité. Puis ensuite, ils vont prendre le nom d'amis de la vérité, puis société des amis. En 1648, la première congrégation des amis est créée à Nottingham, puis à Patrick. Et à partir de là, eh bien, il va y avoir une expansion missionnaire. Car si George Fox n'a pas la vision de l'Église, il a en tout cas la vision de l'évangélisation. Et effectivement, comme c'est un excellent évangéliste, peut-être d'ailleurs ça a été son tort, n'est-ce pas, de vouloir jouer au docteur alors qu'il était un bon évangéliste, et il aura effectivement un succès important dans le domaine de l'évangélisation, en sorte que le mouvement va grandir extrêmement rapidement. Et en 1660, George Fox éprouve le besoin de structurer ce mouvement et de lui donner donc une assise. Il crée un synode présidé par Robert Berkeley, qui est le théologien du mouvement. Alors, il publie un catéchisme avec 15 thèses principales qui sont encore jusqu'à aujourd'hui les bases du mouvement Quaker mondial. Dieu qui a fait le monde n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Par conséquent, il est contre toute forme de cléricalisme, toute forme de liturgie, etc. Et on peut lire la Bible, bien sûr, il n'est pas contre la Bible, mais la Bible ne doit pas être lue dans les églises. C'est chez soi ou dans les champs, n'est-ce pas, qu'il faut lire la Bible. C'est une relation personnelle et non pas communautaire, n'est-ce pas. Il y a l'idée même d'un culte communautaire lui est désagréable, en quelque sorte. Par contre, il va développer, comme le font d'ailleurs les Quakers jusqu'à nos jours, une diaconie importante. L'aide aux pauvres, aux malheureux, qui va de pair justement avec son action missionnaire, en sorte qu'aujourd'hui les Quakers ont beaucoup, beaucoup d'actions caritatives de par le monde. Ils sont considérés comme une des principales organisations religieuses de type caritatif. George Fox va mourir en 1691, en laissant derrière lui un mouvement florissant, mais hélas, qui est très très éloigné, qui s'est écarté considérablement des bases bibliques et qui va finalement avoir une influence extrêmement négative sur l'évolution des évangéliques tout au long de leur histoire, sans que ces derniers n'aillent aussi loin que lui. Mais si vous voulez, une des thèses qu'il a évoquées, notamment l'anticléricalisme qui va trop loin, qui bascule dans la négation même de la notion d'Église, va marquer les évangéliques jusqu'à nos jours. On peut dire que le mouvement Quaker était en fin de compte un mouvement mystique. Le XVIIe siècle est mystique. Nous avons vu les mouvements mystiques dans le catholicisme, par exemple le quiétisme de Madame Guyon, de Molina, etc., de Fénelon. Le jansénisme était aussi, d'une certaine manière, un mouvement mystique. Et il est donc tout à fait naturel qu'on trouve aussi dans le protestantisme des mouvements mystiques de cet ordre-là. C'est tout à fait intéressant de noter, par exemple, qu'il y a des grandes correspondances entre le mouvement de George Fox et puis Madame Guyon, le quiétisme, n'est-ce pas ? Madame Guyon et les quiétistes insistaient énormément sur aussi le silence intérieur, la paix intérieure, donc d'où le nom de quiétisme, pour entendre la voix de Dieu. Et d'une certaine manière, d'une manière beaucoup plus, comment dirais-je, spectaculaire, avec les tremblements attribués au Saint-Esprit, les Quakers aussi donc recherchent la lumière intérieure. Il y a quelque chose là. Pourtant, c'est des mouvements qui n'ont pas de contact, qui en principe ne s'influencent pas l'un l'autre, mais qui ont finalement une recherche du même ordre. Alors, on trouve d'autres mouvements mystiques au XVIIe siècle dans le monde protestant, en Allemagne. En Allemagne, justement en réaction contre la sécheresse de l'Église luthérienne du XVIIe siècle. Et le principal promoteur de ce mouvement est un certain Jacob Bohm. Bohm, on dit ça B-O-H-E-M. Bohm, bon, d'accord. Voilà, alors vous avez compris. Qui est en quelque sorte un homme qui se met à avoir soudain des visions et des révélations. Au sein de l'Église luthérienne. C'est un luthérien, c'est date 1577-1624, et c'est un homme qui, à partir des visions qui sont les siennes, va élaborer des doctrines. C'est toujours extrêmement redoutable. Dans le fond, c'est ce qu'avait fait George Fox aussi, d'une certaine manière. À partir de sa vision première, qui l'avait amené à se convertir, il va élaborer des doctrines qui vont s'éloigner de plus en plus de la Bible. Eh bien, Bohm va donc faire la même démarche, et il va retomber dans une vieille hérésie que des premiers siècles, l'hérésie gnostique. C'est-à-dire que le monde matériel est mauvais et seul le monde spirituel est bon. Donc l'homme doit obligatoirement s'affranchir de tout ce qui est matériel, du monde, de la chair, d'où un ascétisme forcené. Bon, il a peu marqué son siècle, on le cite simplement comme ça. Et puis alors il va y avoir une floraison de mouvements pseudo-mystiques de ce type-là. Par exemple, l'ordre de la Rose-Croix, les Rosicruciens qui existent encore aujourd'hui, bien naissent au XVIIe siècle, dans une tentative déjà tout à fait en avance sur leur temps de réconcilier la science et la foi. C'était le but des Rosicruciens, cette période-là. Alors, d'une manière tout à fait mystique, au travers de sociétés secrètes, qui est fondée donc par un certain Valentin Andrew, qui est un pasteur luthérien, et qui va mélanger la théosophie avec l'hindouisme. Vous voyez, il y a tout un mélange, il y a tout un espèce de bouillonnement de choses qui sont tout à fait négatives. Alors, les dates de Valentin Andrew, 1586-1654. Alors, devant cette situation-là, eh bien, finalement, certains mouvements vont avoir quelques fortunes. Par exemple, bon, ben, nous avons vu la Société des Amis. Les mouvements autres de Bohème, par exemple, ne perdureront pas et ne lui survivront pas. Les Rose-Croix subsisteront, par contre, jusqu'à nos jours, mais quand même d'une manière tout à fait circonscrite et d'une manière tout à fait limitée. Maintenant, l'évolution du protestantisme n'est pas sans être influencée par l'évolution de la situation politique aussi des pays protestants. L'Angleterre connaît à cette période-là de très nombreuses vicissitudes. Et en effet, au début du siècle, c'est le fils de Marie Stuart, le roi Jacques, qui est roi d'Écosse, qui devient roi d'Angleterre après la mort d'Élisabeth Ière. Et ainsi, donc, il y a sous l'égide de la couronne d'Écosse, la première fusion entre le royaume d'Écosse et le royaume d'Angleterre. Bien entendu, Marie Stuart était une catholique forcenée. Le roi Jacques, lui, devient roi d'Angleterre et d'Écosse à la condition, bien sûr, qu'il abjure le papisme et qu'il donc entre dans le cadre de ce que la grande Élisabeth avait élaboré dans son œuvre de réforme qui avait suivi donc la mort de son père Henri VIII. Le roi Jacques va marquer son époque en ce qu'il va faire traduire la Bible en anglais. Il va demander, n'est-ce pas, une nouvelle traduction de la Bible. Il y avait déjà des traductions de la Bible, notamment la traduction de Tyndale. Mais il pense qu'il faut une Bible qui soit plus adaptée, plus moderne par rapport à son temps. Et alors, il va faire publier, éditer une Bible qui porte son nom, qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui encore, n'est-ce pas, la Bible du roi Jacques, et qui est un véritable chef-d'œuvre, un monument de la littérature anglaise de tous les temps. Si vous voulez, c'est le pendant de la Bible de Luther pour l'Allemagne. La Bible de Luther est encore lue aujourd'hui dans les églises allemandes. Bon, on a cessé depuis peu de lire la Bible dans la version du roi Jacques, parce que c'est quand même un vieil anglais, hein. Un anglais qui n'est plus guère compris des jeunes générations, mais il y a 30 ans de cela, la Bible du roi Jacques, qu'on appelle encore, sera version autorisée, ça, parce que c'était la version officielle du royaume d'Angleterre, eh bien, il y avait encore des gens, il y a 30 ans de ça, quand j'étais à l'école biblique, qui étaient des chauds partisans de la Bible du roi Jacques. J'en ai d'ailleurs un exemplaire chez moi. C'était là, quand j'étais en Angleterre, je lisais la Bible dans la version du roi Jacques, avec tous les archaïsmes que pouvait avoir ce vieil anglais du XVIIe siècle, quoi. Alors, Le deuxième point positif de l'œuvre du roi Jacques, c'est que il met au point dans l'Église d'Angleterre le système épiscopal. Bon, je sais pas si on peut appeler ça tellement positif d'ailleurs, mais enfin, ça a été quand même la deuxième chose qu'il a faite. Et alors, par contre, il s'est mis à persécuter les dissidents, les puritains, les congrégationalistes, les baptistes, les quakers, tous ceux qui n'étaient pas dans la stricte orthodoxie de l'Église d'Angleterre étaient donc persécutés. Le roi Jacques meurt en 1625. Son fils Charles Ier lui succède, 1625-1649. Alors, le fils de Jacques, donc Charles Ier, a épousé une princesse française, Henriette de France, qui est une catholique. Et il veut revenir au catholicisme. Il tente d'interdire l'exercice du culte en Écosse, en particulier, ce qui provoque des révoltes en Écosse et en Angleterre. Et alors, chose tout à fait intéressante, n'est-ce pas ? À cette période-là, le Parlement anglais non seulement rejette avec vigueur, n'est-ce pas, l'orientation que le roi veut donner au pays, mais encore, il va opter pour le puritanisme. Ça veut dire que l'Église d'Angleterre, n'est-ce pas, va entrer à fond dans la vision des puritains. Et l'Église anglicane, le roi est obligé de s'incliner, l'Église anglicane va être réorganisée selon les principes des puritains. En 1644, le Parlement anglais supprime le Common Prayer Book, le livre de prière, qui était en vigueur depuis Élisabeth la Grande, pour adopter le catéchisme de Westminster, qui est d'inspiration presbytérienne, donc calviniste. Le roi résiste autant qu'il le peut, mais à la tête du Parlement, il y a un noble qui se nomme Olivier Cromwell. Et alors, on va assister à un conflit aigu entre Charles Ier et Olivier Cromwell. En fin de compte, Cromwell, qui a l'appui du Parlement, qui a l'appui de la majorité de l'Église d'Angleterre, qui a l'appui des puritains en particulier, n'est-ce pas, va obtenir la victoire contre le roi. Il fait arrêter le roi, il le fait détrôner, condamné pour haute trahison, et Charles Ier est exécuté publiquement, décapité en 1649. Et Olivier Cromwell devient le dictateur de l'Angleterre. C'est un des rares épisodes dans l'histoire d'Angleterre où il y a une interruption de la monarchie. Et avec Cromwell, c'est le parti puritain qui arrive au pouvoir. Olivier Cromwell va instituer en Angleterre une république puritaine. C'est un épisode tout à fait intéressant dans l'histoire. La première chose que fait Cromwell quand il arrive au pouvoir, c'est de supprimer par la force, n'est-ce pas, un complot des royalistes anglais. Et Cromwell, donc, va diriger l'Angleterre selon les principes puritains. S'il est extrêmement ferme avec ceux qui menacent son pouvoir, il va être au contraire extrêmement tolérant avec les dissidents. Autant sous le règne de Jacques Ier et de Charles Ier, les dissidents avaient été persécutés, autant maintenant ils vont avoir une totale liberté de conscience, une totale liberté de culte. En sorte que, eh bien, la République de Cromwell va être un temps d'expansion extraordinaire, justement, de toutes les églises libres qui existaient en Angleterre, congrégationalistes, baptistes, quakers, etc., etc., quoi, hein, puritaines et tout. Là, il y a eu une grande liberté, donc un grand essor. Cette république de Cromwell va donc durer pendant tout le temps de sa vie, donc jusqu'en 1660. Et à la mort de Cromwell, eh bien, une période d'anarchie s'ensuit. Charles II, qui est le fils de Charles Ier, rétablit le principe anglican en 1660 jusqu'en 1685, date de sa mort. Il persécute à nouveau les dissidents et les puritains. Et autant, n'est-ce pas, la République de Cromwell était une politique austère. La République de Cromwell est une république austère, n'est-ce pas, où les plaisirs étaient bannis, les débits de boissons strictement réglementés, comme c'était d'ailleurs encore le cas il n'y a pas longtemps en Angleterre, les lieux de plaisir traqués sans merci, les gens de mauvaise vie mis au pas. Autant, n'est-ce pas, avec le retour de la monarchie sous Charles II, il va y avoir le balancier qui va aller dans le sens inverse, une frivolité, une superficialité absolument effarante à la cour d'Angleterre qui suit donc la mort de Cromwell. Charles II promulgue ce qu'il appelle l'acte d'uniformité, c'est-à-dire que tout ecclésiastique doit obligatoirement prêter serment sur les 39 articles de 1662, c'est-à-dire sur doit relier l'Église anglicane, quoi, tout bête. On peut dire que toute autre église que l'église anglicane est mise hors la loi par Charles II. Son frère Jacques II lui succède en 1685 jusqu'en 1689. Il tente aussi de ramener le catholicisme. Bon, il ne fait pas de vieux os, n'est-ce pas, que 3 ans plus tard, il est déposé et puis lui succède Guillaume III d'Orange, alors qu'il est lui, justement, le roi d'Hollande. C'est-à-dire que là, il y a ce que Louis XIV redoutait le plus, c'est-à-dire l'union de la couronne d'Angleterre et de la couronne de Hollande. Guillaume d'Orange va régner de 1689 à 1702, et donc vous savez combien les huguenots français avaient mis d'espérance, justement, dans Guillaume d'Orange, dans lequel ils voyaient, en fin de compte, un véritable messie. D'ailleurs, ils seront profondément déçus par Guillaume d'Orange quand il sera arrivé au pouvoir. C'est à cette période-là, n'est-ce pas, que un certain nombre d'œuvres littéraires sont produites, en particulier, n'est-ce pas, un certain Milton, 1604-1674, qui est un puritain, qui est un collaborateur de Cromwell. Il est aveugle, n'est-ce pas, mais ça n'empêche pas d'être un très proche de Cromwell, et il compose un poème qui est un chef-d'œuvre de la littérature anglaise, qui s'appelle « Le paradis perdu ». Paradis perdu de Milton, ça tout anglais le sait. Bon, je vais peut-être vous lire, si vous voulez, quelques extraits d'un discours de Cromwell au Parlement du 17 septembre 1656, c'est pas, dans lequel il défend justement la liberté religieuse. Tout à fait intéressant de noter que Cromwell a été vraiment le tout premier homme d'État qui est véritablement institué la totale liberté religieuse dans ses États. C'était tout à fait nouveau à l'époque. « Nous nous sommes efforcés, dit-il, depuis le dernier Parlement, de montrer au pays que nous, tous les hommes pieux, quelle que soit leur religion, doivent avoir la complète liberté de conscience, pour autant qu'ils vivent tranquillement et paisiblement. Nous ne voulons pas que la religion soit un prétexte pour prendre les armes et pour répandre du sang. Nous avons assez souffert de ces choses, et nous en avons volontiers souffert afin qu'on jouisse de cette liberté. Si on résiste à cela, quelle qu'en soit la raison, si on agit de telle sorte que cela conduise à des ligues, des intrigues, des factions, Dieu sait que nous n'aurons cure de savoir qui nous frapperont. même si par ailleurs l'on se conduit paisiblement ou d'une manière avenante. En vérité, je suis contre une liberté de conscience qui répugne à cette façon de voir. Mais celui qui veut vraiment confesser sa foi, qu'il soit anabaptiste, indépendant, presbytérien, soutenez-le au nom de Dieu aussi longtemps qu'il continue à marcher simplement devant Dieu, dans la reconnaissance, et qu'il fait usage de sa liberté pour en jouir dans sa propre conscience. Car on l'a déjà dit, c'est là une chose essentielle pour laquelle on combat, tous ceux qui croient en Christ, la vraie religion consiste dans la foi en Jésus-Christ et dans la conduite qui correspond, tous ceux qui croient au pardon des péchés par le sang de Jésus-Christ et à la justification par le sang de Christ, qui vivent de la grâce de Dieu et qui sont certains de cette foi, tous ceux-là sont les membres du Christ et la prunelle de ses yeux. Quiconque a cette foi, quelle qu'en soit la forme, doit avoir une telle liberté s'il vit paisiblement et sans préjugés contre ceux qui ont une autre formule. Nous sommes responsables de ces choses devant Dieu et il nous en sera demandé compte. Voilà. C'est la première déclaration, finalement, qu'on retrouve dans les droits de l'homme. Hein. Cromwell, dans ce domaine-là, est un véritable pionnier. Alors, il faut citer aussi, à cette période-là, l'œuvre magistrale de John Bunyan, 1628-1698. C'est un chaudronnier qui va devenir pasteur baptiste. Et il va être emprisonné par Charles II, qui traque tous les dissidents, on l'a vu tout à l'heure, et il sera emprisonné pendant 12 ans, pour avoir refusé de renoncer à prêcher. Il met le temps qu'il passe en prison, les 12 années qu'il passe en prison, pour écrire un ouvrage qui est devenu un best-seller pour des chrétiens du monde entier jusqu'à aujourd'hui, qu'on a dans la bibliothèque, j'imagine, Marc, hein, et s'appelle Le Voyage du Chrétien. Sous une forme allégorique, sous une forme imagée, n'est-ce pas, il évoque ce qu'est la vie chrétienne. Depuis, la conversion jusqu'à la mort. Et chose tout à fait intéressante, n'est-ce pas, ce voyage du chrétien a même eu l'heure de plaire à l'Église catholique, qui bien entendu s'est chargée de le censurer et de doter tout ce qui pouvait lui sembler. Mais sous d'autres titres, n'est-ce pas, il a circulé en milieu catholique, et je pense qu'il doit y circuler encore d'ailleurs, n'est-ce pas, comme une allégorie tout à fait intéressante justement de ce qu'est la vie chrétienne. Il faut dire que nous sommes là aussi dans une vision quelque peu mystique, qui va bien dans l'esprit du siècle, tant en Angleterre, donc au sein du protestantisme, que en France, par exemple, au sein du catholicisme. Donc, en 1662, nous avons vu, après la restauration et l'acte d'uniformité, pour amener tout le monde l'Église d'Angleterre, dans l'Église anglicane, eh bien, il y a 2000 pasteurs dans toute l'Angleterre qui refusent de prêter le serment. Bon, ils sont déposés. 2000 pasteurs qui, du jour au lendemain, sont déposés. Alors, bien évident que le nombre est trop grand pour qu'on puisse décapiter un tel mouvement. Et alors, les baptistes et les congrégationalistes, en particulier, commencent à faire un peu partout des réunions secrètes. Par exemple, Bunyan aura une église clandestine à Bedford, dont il sera le pasteur baptiste. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un certain nombre de baptistes, dont Bunyan justement, bien qu'étant baptiste, admettaient aussi le baptême des enfants. Ils pratiquaient les deux formes de baptême. Et c'est un fait intéressant de noter que jusqu'à aujourd'hui, il y a en Angleterre et aux États-Unis, dans les milieux baptistes, des gens qui admettent les deux formes de baptême. Et même au sein de la Fédération baptiste française, un certain nombre de pasteurs ne sont pas loin de partager ces vues-là, vues qui, évidemment, sont anti-bibliques et qui sont suicidaires dans le cadre, justement, d'une vision baptiste de l'Église. Maintenant, il y a un autre pays où la réforme va s'implanter, c'est l'Amérique du Nord. Nous sommes ici à l'époque, un siècle après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et le moment où la colonisation bat son plein. La colonisation, c'était d'abord la colonisation de l'Amérique du Sud par l'Espagne et le Portugal, donc le Portugal essentiellement, ce qui deviendra le Brésil, et puis l'Espagne, les autres pays d'Amérique du Sud. Et puis alors, l'Amérique du Nord va être colonisée un siècle plus tard par les Anglo-Saxons essentiellement et un peu les Français. Et la première vague, si vous voulez, de colons va partir d'Angleterre et de Hollande. Ce sont des gens, justement, qui vont partir au Nouveau Monde pour des raisons religieuses, parce que, justement, ils sont persécutés en Angleterre. Et c'est ainsi que les indépendants, les congrégationalistes, au moment où le roi Jacques interdit tous les cultes dissidents, demandent, bon, acceptent la décision du roi, mais lui demandent l'autorisation de se rendre dans le Nouveau Monde pour y pratiquer librement leur foi. Et le roi Jacques II, c'est pas Jacques Ier, pardon, c'est une trompette, c'est Jacques II, leur donne la permission d'émigrer en Amérique. En 1620, un groupe de, justement, de dissidents religieux, membres des églises congrégationalistes, arme un bateau, le Mayflower, fleur de mai, n'est-ce pas, avec lequel ils entreprennent la traversée de l'Atlantique sans espoir de retour, dans le but de créer dans le Nouveau Monde une colonie congrégationaliste. Ils partent de Plymouth, du port de Plymouth en Angleterre, et ils cinglent donc vers les Amériques, comme on dit à cette époque-là. Le voyage est extrêmement éprouvant, ça se passe plutôt mal. Et puis, en fin de compte, après plusieurs semaines d'une traversée difficile, donc ils arrivent, ils posent le pied sur le sol de l'Amérique. Et les Américains, jusqu'à aujourd'hui, considèrent l'arrivée des pèlerins du Mayflower, des gens du Mayflower, comme l'acte de création des États-Unis d'Amérique. Dès qu'ils ont débarqué sur le sol américain, à Rhode Island, l'État de New York, ils se prosternent sur le sol de l'Amérique et bénissent Dieu de leur avoir donné cette terre promise. C'est en novembre, n'est-ce pas, de l'année 1620 qu'a lieu cette arrivée des gens du Mayflower. Et depuis ce jour, n'est-ce pas, depuis ce temps, ce jour est considéré comme fête nationale en Amérique. C'est ce qu'on appelle le Thanksgiving Day, le jour d'action de grâce, qui est fêté par tous les Américains, qu'ils soient religieux ou non, n'est-ce pas, comme véritablement l'acte de création de l'Angleterre. Bon, il y a des festivités diverses sur lesquelles je passe, qui sont célébrées là-bas, mais qui marquent justement le début de ce désir de vivre dans la liberté religieuse. Ils veulent créer essentiellement une société, une église, une communauté qui soit pure de toute hérésie. Bon, le premier hiver passé en Amérique est extrêmement difficile, extrêmement rude. Et finalement, le roi leur demande de payer malgré tout un impôt ecclésiastique qu'ils doivent envoyer en Angleterre pour pouvoir jouir des droits civiques. En fin de compte, n'est-ce pas, ce que vont créer les puritains qui étaient venus là pour obtenir une liberté religieuse qui leur était refusée, eh bien, ils vont aussi assez vite créer une société qui sera relativement intolérante. Et notamment, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les principes de l'Église congrégationaliste qui est ainsi fondée à Rhode Island sont expulsés, bannis, livrés à l'exil et même parfois certains d'entre eux à la mort. C'est alors qu'un certain pasteur anglican, qui se nomme Roger Williams, les rejoint et il est choqué. Il est profondément choqué par, justement, cet esprit d'intolérance qui s'est introduit au sein de ceux qui ont fui, justement, pour pouvoir trouver, eux, une tolérance. Et c'est alors que Roger Williams se sépare de la colonie de Rhode Island et il fonde au sud de Boston une autre colonie dans la ville de Providence où, alors, n'importe quelle religion aura droit de citer. Là, il ne fait absolument aucune barrière. Ce sera le premier endroit du monde où il en est ainsi, où n'importe qui, banni ou persécuté pour des raisons religieuses, va pouvoir venir s'installer. Et c'est là que se crée, en 1639, la première église baptiste d'Amérique, dont Williams est le fondateur, lui-même ayant été convaincu en ce qui concerne le baptême. Alors, il lui-même n'était pas baptisé, c'était un pasteur anglican, mais il est convaincu du baptême. Alors, finalement, tous les membres de sa congrégation se baptisent mutuellement. Et c'est ainsi qu'est créée la première église baptiste des États-Unis. Et c'est à la fin du siècle que donc un Quaker, converti par George Fox, que nous avons rencontré tout à l'heure, se nomme William Penn, achète du roi d'Angleterre, contre monnaie sonnante et trébuchante, une partie des colonies d'Amérique qu'il va appeler de son nom, Pennsylvanie. où il va fonder une ville qu'il va nommer Philadelphie, qui est tout un programme, amour fraternel, n'est-ce pas, qui se veut une ville profondément religieuse. Et l'État de Pennsylvanie, comme l'État de Boston, sera caractérisé par une liberté religieuse absolument illimitée. Donc c'est en 1683 qu'est créée la ville de Philadelphie. Le seul problème qui va se poser à ces colons qui se sont installés en Pennsylvanie, c'est les Indiens. Ils vont avoir pas mal de problèmes et mal à partir avec les Indiens. Il faudra bien de temps en temps repousser les Indiens. Donc, dans ce même temps, affluent en Pennsylvanie des épiscopaux, des catholiques, oui. La première implantation catholique en Amérique, là, c'est quand même assez extraordinaire que dans cette colonie-là, on accepte des catholiques. Car encore accepter des dissidents, congrégationalistes, baptistes, quakers et autres, ça peut se concevoir dans une vision protestante. À cette époque-là, au XVIIe siècle, accueillir sur un pied d'égalité des catholiques, c'est pas évident. C'est vraiment une vision de tolérance assez extraordinaire pour l'époque. Et puis enfin, justement, des réformés. Et puis ensuite, n'est-ce pas, nous allons avoir une deuxième vague que nous verrons la prochaine fois de colons qui vont venir s'installer dans les Amériques, dans les colonies d'Amérique, pour des raisons religieuses également. Ce sont les Arméniens. Les Arméniens, justement, persécutés, comme nous l'avons vu, et qui vont rejoindre, justement, les premiers colons qui sont installés dans l'État de New York, en Pennsylvanie, et puis dans l'État de Boston. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?